Vous écoutez Lille 1 Info, le magazine consacré à l'Université Lille 1, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Lille Info accueille aujourd'hui M. Franck Riquet. Donc, on va parler de ce prix, Gueflucq, que vous avez reçu. Bonjour M. Riquet.
Bonsoir.
Donc,
merci
vous êtes...
de votre invitation.
C'est un plaisir. Vous êtes à Lille 1, chercheur.
C'est cela, oui.
Dans un laboratoire.
Oui, laboratoire EA4479 de Jean-François Baudard.
C'est un laboratoire très spécialisé.
Un laboratoire qui travaille sur la régulation des signaux de division, donc tout ce qui concerne la prolifération cellulaire en fait et sa régulation.
Alors ce prix Gueflucq, donc qui a un nom un peu barbare comme ça, mais c'est le groupement des entreprises françaises dans la lutte contre le cancer. On imagine bien qu'il récompense des études importantes et porteuses d'avenir.
Alors oui, effectivement, ce prix récompense des études en cours ou exploratoires qui vont être amenées à se développer en fait au travers... d'une demande de fonds, et cette demande de fonds est expertisée au niveau national. Et donc c'est une somme d'argent qui est allouée aux jeunes chercheurs pour continuer à développer ou mettre en place leur projet exploratoire en lien avec le cancer, effectivement.
Donc cet argent sert à la recherche, et en ce qui vous concerne, plus spécialement la recherche sur le cancer, notamment sur le mélanome.
Alors oui, c'est une situation un petit peu particulière. La recherche qui est faite sur le mélanome est faite en collaboration en fait et est initiée ou a été initiée déjà depuis plusieurs années par nos collaborateurs à Lille 2, Renata Polakowska et Pierre von Stecher. Et donc nous, ce que nous apportons ici, c'est l'expertise et au niveau d'outils particuliers qui permettent en fait la mesure d'activité en cellules vivantes. Donc c'est cet aspect, pour cet aspect qu'on a été récompensé au travers de ce prix.
Donc vous n'êtes pas biologiste ?
Alors je suis biologiste,
si vous êtes biologiste,
bien sûr.
D'accord.
Mais je travaille avec des outils qui permettent de mesurer des choses dans des cellules vivantes.
D'accord. Voilà. Donc les biologistes ont évidemment besoin d'outils très performants. On va quand même rappeler ce qu'est le mélanome. Alors on va dire que d'une manière simple.
D'une manière simple, c'est un cancer de la peau, effectivement, donc qui est malheureusement bien répandu et en augmentation, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est un cancer qui a une incidence forte dans cette région. Des études sont en cours, effectivement. Alors ça porte un peu beaucoup sur les cellules souches cancéreuses, donc des cellules qui sont responsables, qui sont tenues pour responsables de l'origine de ces cancers.
Donc quand on fait des études sur un type particulier de cancer, évidemment il y a l'aspect à partir des gens qui ont ces problèmes, comment on essaie d'isoler, de trouver l'origine sur leur corps et sur leur relation peut-être à l'espace, au temps, à ce qui se passe dans leur environnement proche, les causes peut-être d'une pollution ou d'autres choses. Est-ce qu'il existe des études épidémiologiques sur lesquelles vous pouvez également vous appuyer ?
Alors ça, c'est le travail qui a été fait par nos partenaires de Lille 2, qui sont, je le rappelle, spécialisés effectivement dans tout ce qui concerne le mélanome plus particulièrement. Effectivement, l'idée est, c'est un va-et-vient, on va dire, entre la clinique et la recherche fondamentale, où là, au travers de ce projet donc, et au travers de cette collaboration, on bénéficie d'un modèle cellulaire qui va nous permettre de faire nos études. Et ce modèle cellulaire a été dérivé d'une tumeur d'un patient. Et donc, on a conservé ces cellules et on est capable de les maintenir en vie et de pouvoir travailler dessus pour aller décortiquer finalement les molécules ou les acteurs qui sont responsables du maintien, par exemple, d'un mélanome qui peut persister pendant plusieurs années. Et puis essayer, de, au travers de ça, de décortiquer cet ensemble et tous ces acteurs moléculaires, d'aller essayer de comprendre finalement ce qui est à l'origine, si on le peut, et surtout comment est-ce qu'on pourrait éviter que ces cellules continuent à proliférer, c'est-à-dire à se diviser. Et c'est là que rentre en lien, c'est-à-dire l'expertise du laboratoire par rapport à la prolifération, à la division de ces cellules.
Donc si j'ai bien compris, il y a une partie qui est par rapport à la personne, comment on évite qu'en elle ne se développe ce mélanome. Et la deuxième chose, c'est peut-être aussi dans l'environnement, par exemple de notre région Nord-Pas-de-Calais, qu'est-ce qui peut favoriser ce mélanome et qu'il faudrait maîtriser, contenir ?
Bonne question. Je ne suis pas clinicien, je suis biologiste. C'est vrai que là, je suis un peu à court de réponse sur l'épidémiologie véritablement là de ce cancer dans la région.
Donc au-delà de ça, on suppose que ces études-là, elles ont pour objet de déboucher le plus vite possible à des solutions de traitement.
Bien évidemment, alors il faut quand même être réaliste, il faut savoir que de la recherche fondamentale jusqu'à la molécule, on considère qu'il se passe en général 10-15 ans. Donc effectivement, les recherches qu'on mène maintenant auront un impact dans plusieurs années. Donc il faut considérer cette échelle de temps, en fait, à ce niveau-là. Mais effectivement, oui, c'est d'identifier ici ce qu'on appelle les cibles thérapeutiques au travers des études qui sont menées, pas seulement dans ce qu'on fait là, dans ce projet, mais par ailleurs aussi dans d'autres laboratoires en France et aussi au CHR, bien évidemment.
Dans le grand public, on connaît un peu le mélanome dans la mesure où on dit qu'il est parfois en liaison avec l'exposition prolongée au soleil ou peut-être aussi des grains de beauté mal soignés.
Effectivement, donc c'est pour ça, on le sait, chaque année, il y a des journées de dépistage hein, où on peut aller chez son dermatologue finalement et aller se faire examiner pour pouvoir, elles sont gratuites. Donc c'est vrai qu'on nous encourage, au travers des ondes radiophoniques notamment, et à la télé aussi je pense, à aller se faire vérifier, on va dire, la peau, entre guillemets, pour éviter, pour plutôt identifier de façon précoce, ça c'est valable pour tous les cancers, si on arrive à diagnostiquer la maladie à un stade précoce, on a davantage de chances de rémission ou de réussir à le guérir pour ces cas. Comme c'est le cas pour certains cancers, mais pas pour tous, malheureusement.
Bon, il ne faut pas alarmer les gens dès qu'ils ont un grain de beauté en disant...
Non, il faut le surveiller, mais en même temps, comme je vous ai dit, je ne suis pas clinicien, donc je ne suis pas médecin, je connais les règles standards, on va dire, par rapport à ça. Et effectivement, c'est une hygiène de vie, entre guillemets. Voilà, il faut faire attention à soi en général et à ça en particulier, dans ce contexte-là.
Voilà, donc vous, votre objet, c'est bien de travailler sur des expérimentations qui vous permettraient peut-être de modéliser et de définir des molécules de traitement.
Effectivement, oui. L'idée, c'est d'aller repérer donc, au travers de la technologie qu'on utilise ici, qu'on appelle, alors c'est un mot un peu barbare, ça s'appelle des biosenseurs. Ça permet effectivement d'aller, je ne sais pas si les gens réalisent bien finalement, beaucoup de tests sont faits finalement dans un contenu cellulaire. C'est-à-dire qu'on a broyé la cellule, on l'a mise dans un tube, et puis là on regarde si des choses sont exprimées sur des gels, c'est-à-dire sur des... Ça a un rendu de film d'autoradiographie, comme on va passer un rayon X à la fin, si vous voulez, le résultat. Là, la beauté de ce qu'on développe ici, alors notamment en local, mais qui a aussi qui commence à prendre de l'ampleur au niveau national, on en reviendra peut-être là-dessus par la suite, c'est qu'on peut aller véritablement, au cours du temps, donc il faut imaginer une cellule sous un microscope, et on peut aller regarder en temps réel les fluctuations de certains enzymes par rapport à un traitement qu'on va apporter ou à une physiologie particulière.
Est-ce que les progrès technologiques vous apportent des outils nouveaux? Quels sont-ils?
Alors les progrès technologiques, oui, notamment, ça va me permettre d'introduire une autre collaboration sur ce projet qui est en partenariat aussi donc avec Laurent Héliot, qui est responsable d'un laboratoire de biophotonique cellulaire fonctionnelle, c'est-à-dire d'imagerie, pour prendre un mot plus conventionnel. Et effectivement, les progrès technologiques au travers des microscopes, c'est-à-dire des outils qui sont à notre disposition, que ce soit donc ça allie en fait la physique, l'optique, la chimie aussi, puisque ces biosenseurs fonctionnent, on va dire, avec des molécules fluorescentes. Donc tous ces aspects, que ce soit donc qu'on a, dont on bénéficie en local, donc au travers de ces équipements et puis de la recherche internationale hein, sur l'amélioration de beaucoup de choses, nous permet effectivement de mener nos études à bien en fait. Donc ce sont les progrès technologiques, mais ça couvre beaucoup de champs, de disciplines en fait. C'est un peu à la croisée finalement, on utilise un peu tout ça dans les études qu'on fait.
C'est vrai que l'ILIN a des outils précieux, notamment en résonance magnétique nucléaire.
Alors effectivement, donc on a la chance de pouvoir bénéficier de grands instruments à l'ILIN et puis de plateformes. Alors j'ai mentionné effectivement la plateforme d'imagerie, donc qui au niveau local, vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, vient j'allais dire récolter, c'est pas vraiment le bon mot, mais d'être labellisé par un IDEX, donc qui permet d'avoir une subvention assez importante pour les investissements d'avenir. Donc ça, c'est quelque chose qui est porté par notre collègue Franck Laffont à l'IBL. Et donc ça permet effectivement de pouvoir aussi avoir une recherche de qualité et puis avoir des outils vraiment performants et qui vont nous permettre de répondre aux questions qu'on se pose véritablement.
Est-ce que votre laboratoire est en relation avec des pôles particuliers et dans la région et en France ?
Alors le laboratoire est hébergé pour l'instant sur le campus qu'on appelle peut-être à tort le campus CNRS, donc qui est là où se trouve la RMN 900 MHz, donc on va dire le campus Lilin, où il y a des... Voilà, donc nous on est hébergé, on a la chance de pouvoir être hébergé à l'IRI qui soutient nos projets effectivement au travers de cet accueil. Donc, je tiens à remercier Vincent Villeray, le directeur de l'Institut de recherche interdisciplinaire. On a reçu des soutiens aussi de l'IFR et de l'Université Lilin au travers de deux demi-bourses de thésard, donc Lilin. Est-ce qu'on est en lien ? Effectivement, on est en lien avec des pôles. Là, je vais mentionner finalement le groupe de travail qui se met en place au niveau national, donc le groupe de travail biosenseur, dont je suis un des coordinateurs avec mon collègue parisien Pierre Vincent de l'UPMC. Donc là, nous sommes en train, avec Pierre et d'autres collègues aussi, mais Maurice à Montpellier, de favoriser, de fédérer finalement l'ensemble des gens qui, comme nous, utilisent ces biosenseurs et qui sont à la recherche de mesures d'activité en cellules vivantes au niveau national. Donc on essaie on arrive à fédérer les compétences à ce niveau-là.
Comment on coordonne ces pratiques, notamment en disant, tiens, dans tel labo, on va faire ça, l'autre là, et après, on mettra en phase les recherches, les résultats ?
Alors, faut voir que pour l'instant, on a une phase de démarrage. Le groupe biosenseur a démarré, donc c'est un groupe, je dois le mentionner, qui est sous l'égide du GDR, qui est le groupement de recherche en microscopie fonctionnelle du vivant. Donc c'est à l'intérieur de ce cadre que nous évoluons. Il a été lancé en juin 2011. Et là, on en est finalement, on s'est rencontrés déjà deux fois. Et on a commencé finalement à échanger par rapport à ce qu'on faisait les uns les autres dans les laboratoires en France au niveau national. Et effectivement, au cours de la dernière réunion, on commence à converger vers des questions du type de quel outil aurait-on besoin véritablement, quels sont les problèmes rencontrés, comment est-ce qu'ensemble on va pouvoir les juguler, c'est-à-dire les dépasser, de quoi est-ce qu'on aurait besoin dans le futur finalement, déjà un peu prévoir, c'est un peu des scénarios d'anticipation, mais finalement de se dire, bah tiens, Est-ce qu'on ne pourrait pas développer tel type d'outils pour répondre à telle question, évidemment. À chaque fois, il faut replacer ça dans un contexte finalement physiologique et biologique, parce qu'on ne fait pas de la technologie pour de la technologie, on développe des outils qui sont en réponse à des questions biologiques, comme c'est le cas pour ce qu'on fait dans le cadre du projet récompensé par le GFLUC, finalement, pour les cellules souches du cancer du mélanome.
Est-ce qu'on peut avoir une idée au niveau mondial, international, de l'évolution de cette recherche et notamment des grands pays où on s'intéresse au cancer et notamment au cancer à ce mélanome?
Je dirais évidemment aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup de recherche qui est faite là-bas, mais j'imagine aussi dans d'autres grands pays, donc États-Unis, on va dire Amérique du Nord, mais je pense que un peu partout, on trouve des laboratoires qui s'intéressent effectivement à ce type de pathologie, clairement.
Il y a des éléments un peu curieux, par exemple, les Chinois disent qu'il vaut mieux porter une ombrelle quand il y a du soleil et qu'il y a certains pays, par exemple l'Australie, où le soleil est plus dangereux que dans d'autres. C'est possible, ça?
Là, ça risquerait de rejoindre peut-être le problème que nous rencontrons au niveau de la planète par rapport à la couche d'ozone. Donc peut-être qu'en fonction de ça, on est plus ou moins exposé aux rayons solaires en fonction de là où on se trouve, effectivement. Et très certainement, se protéger du soleil reste, à mon avis, une bonne idée. Ouais.
Est-ce que dans ces pays où on sent le plus en danger, la recherche est plus active que dans d'autres?
Bonne question.
Parce que j'allais dire
sèche.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, le soleil n'est pas forcément la chose la plus évidente, mais...
Mais alors c'est pas alors peut-être que beaucoup des gens du Nord-Pas-de-Calais vont en vacances dans le sud de la France,
ah,
je ne
voilà,
sais pas, peut-être.
Ils deviennent imprudents à ce moment-là.
Et puis je crois savoir que c'est en lien aussi avec le nombre de fois où on s'expose sans protection. C'est plus cet aspect-là des choses. Alors évidemment, des coups de soleil à répétition sur une peau non protégée forcément risque de conduire à davantage de méfaits, mais encore une fois, n'alertons pas le public à mauvais escient.
Voilà, donc notre capital de résistance a ses limites, le tout est d'être raisonnable.
C'est ça, comme en toute chose.
Très bien. Donc ce prix GFLUC vous ramène des financements pour réaliser vos recherches. Est-ce qu'aussi ça vous ramène une notoriété et qu'est-ce que vous allez en faire, j'allais dire comment vous allez la capitaliser.
Comment je vais la capitaliser? Alors, je peux éventuellement mentionner que le prix GFLUC a déjà fait des petits, puisque nous avons reçu, à la suite de la publication d'un article dans La Voix du Nord, nous avons reçu une donation d'une personne privée, sur le projet précisément. Voilà, ça a déjà été capitalisé à ce niveau-là, finalement. Donc on a reçu des moyens nous permettant de mener à bien cette recherche. Et puis, effectivement, comme je le disais au départ, le GFLUC récompense des projets, des jeunes chercheurs essentiellement, pour leur mettre le pied à l'étrier. Hein, c'est la terminologie employée par le président du GFLUC au niveau local, Gérard Descamps. Ça permet, si vous voulez, de lancer, d'acquérir déjà des résultats préliminaires sur les projets, ce qui doivent permettre par la suite de pouvoir faire des appels, répondre à des appels d'offres plus conséquents, en fait.
Voilà, donc on peut dire que cette récompense honore la région d'une manière générale.
Clairement, je pense, oui, bien sûr.
Et qu'à partir de là, ça peut aussi attirer des entreprises qui auraient intérêt à travailler avec votre laboratoire.
Oui, alors je voudrais rappeler quand même qu'on est un laboratoire de recherche fondamentale. Hein, donc pour attirer une entreprise, il faut avoir quelque chose qui est déjà monnayable. Sur un plan, je dirais, si on pense à des jeunes pousses en biotechnologie, pour ne pas utiliser d'anglicisme, il faut déjà avoir des choses qui soient dans le pipeline, comme on dit, donc dans les tuyaux, effectivement, pour pouvoir avoir quelque chose à monnayer, mais peut-être par la suite, on verra, effectivement, en fonction des choses qui sont découvertes et identifiées et démontré au cours de ses recherches.
Est-ce qu'on pourrait imaginer des passerelles pour les doctorants?
C'est-à-dire
De mettre en commun des doctorants entre justement les labos et les entreprises sur des terrains qui sont parallèles ou complémentaires.
Effectivement, donc ça c'est des choses qu'on a déjà tentées, qui n'ont pas porté ses fruits pour l'instant, mais ça reste effectivement des choses possibles au travers des bourses CIFRE notamment. Mais je pense que pour le moment, enfin les retours que j'avais pu avoir des industriels, c'était que fallait continuer à les informer pour le moment. C'était bon enfant, c'est-à-dire oui, enfin. On va voir comment ça se développe, mais on sait déjà qu'il y a des industriels, je pense notamment au groupe Biosenseur, qui sont déjà partie prenante et intéressés par tout ce qui se fait au niveau national. Donc il y a des passerelles possibles, et il y aura très certainement des doctorants et des ressources humaines partagées entre l'entreprise et le secteur académique.
Dans votre domaine, est-ce qu'il y a des moments, des temps forts, soit en France, soit en Europe, sur ces échanges entre chercheurs ?
Alors, effectivement, on peut se retrouver à l'occasion de congrès, et bah, notamment, je peux en faire la pub ici, c'est qu'il y a la rencontre annuelle du Cancéropole Nord-Ouest qui va se dérouler à Deauville, le 10 et le 11 mai prochain. Donc là, c'est un temps fort et un moment d'échange entre les chercheurs de toute la région Nord-Ouest. Donc ça, c'est au niveau national. Après, évidemment, il y a les gros meetings américains, par exemple. Ça c'est 2000 participants, plein de congrès en même temps, plein de talks à la fois. Enfin, c'est à la fois un temps fort, c'est magique et ça permet vraiment de tisser des liens et de rencontrer des gens. Donc, et ça, ce sont des choses importantes parce que le chercheur n'est pas une bête isolée dans son laboratoire. C'est quelqu'un qui a besoin de contacts et puis d'avoir un réseau et de pouvoir échanger avec les autres. Et c'est ce qu'on a réussi à tisser déjà là au niveau local entre, on va dire, l'IRI avec les aspects imagerie, l'île 2 qui ont apporté, je le répète une nouvelle fois, la thématique et puis nous avec cette technologie qu'on développe en local. Donc là, on voit déjà qu'il y a une communication et c'est déjà un temps fort en fait en soi.
Est-ce que pour vous aider, vous avez des sources documentaires qui sont, je dirais, aisément consultables et que vous nourrissez vous-même ?
Alors oui, effectivement, on a des sources documentaires qui sont nettement plus facilement consultables qu'il y a quelques années, lorsque j'étais en thèse, où il fallait aller imprimer ses articles à la bibliothèque universitaire. Donc maintenant, tout est à portée de clic, finalement. On peut charger un article scientifique qui nous intéresse en cliquant, en ouvrant un document en format PDF et on peut s'imprégner tout de suite des recherches qui sont faites partout dans le monde. Donc ça se trouve sur en général ce qu'on appelle PubMed, c'est-à-dire la Librairie Nationale de Médecine qui est hébergée, si mes souvenirs sont bons, à Harvard.
Alors, la vulgarisation de ce type de recherche n'est pas forcément évidente. Est-ce qu'il existe néanmoins des ouvrages que le grand public peut consulter qui pourraient l'informer et peut-être le conseiller ?
Alors, des ouvrages qui existent, oui, je pense. Alors, il y a toujours toutes les séries Science et Vie qui sont très bien faites, dans un premier temps. Ensuite, je pense qu'il y a un magazine national qui s'appelle La Recherche, dans lequel on peut trouver des informations intéressantes. Ensuite, si on monte à chaque fois un peu dans l'échelle de un peu moins de vulgarisation et un peu plus de scientifique, on va dire, au-delà de la recherche, on peut trouver des magazines de type médecine science, hein, qui sont aussi de bonnes sources. Et puis, j'avoue que moi, personnellement, je trouve beaucoup de choses dans une collection qui s'appelle La Science au présent, qui est éditée par Encyclopédia Universalis et qui est écrite par des gens comme moi, finalement, ou comme tous mes collègues ici. Il y a d'ailleurs des gens de l'ILIN dans différents domaines qui ont participé à des chapitres à l'intérieur de ces volumes.
Alors Franck Criquet, donc ce prix vous honore et en même temps vous encourage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de plus finalement ? Vous êtes quand même déjà bien chanceux là.
Oui, non, mais je ne me plains pas et je réalise bien la chance que j'ai ici. Ça ne se fait pas, comme je l'ai mentionné, ça ne se fait pas sans soutien, ça ne se fait pas seul. Ça récompense effectivement une personne nommément, mais c'est un travail d'équipe avant tout. Pour l'instant, moi, j'ai pas à me plaindre. Les choses vont. On a la chance aussi d'avoir des soutiens locaux, notamment, comme je l'ai mentionné, au niveau de l'université, au travers de deux demi-bourses de thésard, au niveau de l'UFR, au niveau de l'université, encore une fois, au travers des bonus qualité recherche, et puis au travers du GFLUC, évidemment, là où ça a finalement bien mis le pied à l'étrier avec quelque chose d'assez inattendu comme cette donation d'un particulier donc, sur le projet. Voilà, et puis pourquoi pas peut-être de la région. Donc oui, clairement, les choses suivent leur train, il ne faut pas s'emballer, il faut prendre le temps de faire ses expériences correctement et comme on le fait toujours avec le plus grand soin. Et puis, voilà, mener, vous me demandiez si je nourrissais effectivement les sources, enfin on va dire les bibliothèques de publication, effectivement, c'est un des objectifs de la recherche aussi, c'est-à-dire trouver des nouvelles molécules, effectivement, mais aussi pouvoir publier des résultats, parce que c'est aussi en publiant des résultats qu'on va pouvoir être crédible et puis pouvoir asseoir des demandes de fonds plus conséquentes.
Est-ce que la région, en tant qu'entité, région Nord-Pas-de-Calais, est intéressée par ces recherches, ce qu'elle s'y implique ?
Alors la région s'implique à différents niveaux. Hein, au niveau de, alors, je ne suis pas à la région non plus, mais je connais effectivement, par exemple, dans la mise en place de l'Institut de recherche interdisciplinaire, la région était fortement impliquée au travers d'un CPER, donc un contrat plan État-région. La région a procédé au mois de septembre dernier à des appels d'offres par rapport aux projets émergents. Donc c'est des projets qui sont en train de sortir ici et effectivement donc on s'attend à ce qu'ils soient éventuellement intéressés. Donc ça, on aura des résultats courant juin.
Franck Cuquet, je vous remercie.
Merci à vous.